Il est pratiquement 18h. Merci à vous d'écouter Europe 1.
À mesure qu'on va progresser sur la vaccination, que nos efforts vont permettre de réduire la circulation du virus, on va progressivement ensuite rouvrir un certain nombre de lieux selon un calendrier qu'on est en train de travailler.
Rouvrir à la mi-mai, c'est le cap fixé par l'Élysée. Un cap, pas une promesse ferme, pas de précipitation, dit le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.
L'Élysée avance prudemment sur ce dossier, surtout ne pas se laisser piéger par le calendrier ou comment dire les choses sans jamais les nommer. Décryptage dans ce journal.
Il y a les doutes ou les inquiétudes autour des vaccins AstraZeneca et Janssen et il y a le succès des vaccins à ARN messager comme celui de Pfizer ou Moderna. Les laboratoires se lancent dans la course.
La reprise économique booste le PIB chinois, plus 18% sur un an. Et la machine repart aussi aux États-Unis et les entreprises française en profite.
L'affaire de la disparition de Mia, la fillette de 8 ans, reste introuvable. Ses quatre ravisseurs engagés par sa mère sont en garde à vue.
Il n'y a pas de crime sans criminel, mais il y a des crimes sans effusion de sang. On croirait presque revenu au temps d'Agatha Christie et d'Hercule Poirot. C'est le grand retour du roman policier garanti sans hémoglobine. Ce sera la fin de ce journal.
La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,85% à 6287 points.
La météo, bonsoir Anissa Haddadi.
Bonsoir Isabelle.
Et donc vous avez des bonnes nouvelles, le soleil qui va dominer demain.
Oui, sur une grande partie du pays. Alors le soleil s'impose, mais nous aurons quand même quelques petits passages nuageux. Il sera masqué de temps en temps, rien de très inquiétant. C'est dans le sud en fait, au bord de la Méditerranée, que le temps sera agité. Demain, je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La troisième vague est loin d'être terminée, dit Jean Castex. Le Premier ministre en déplacement dans un CHU de Caen a tempéré les ardeurs de ceux qui imaginent déjà un mois de mai normal ou presque normal. Bien, le porte-parole du gouvernement a pratiquement fait la même chose, lui aussi.
Oui, Gabriel Attal, pressé de questions également, notamment sur la réouverture des commerces. Le porte-parole du gouvernement qui a tenté de recadrer les choses. Hein. Prudence, prudence.
Le président de la République l'a dit dans son allocution il y a 15 jours. Il a parlé d'un début de réouverture à la mi-mai, en commençant par certains lieux de culture et certaines terrasses. Ensuite, les choses se feront progressivement à mesure que la situation sanitaire s'améliorera et à mesure que la vaccination continuera à se déployer. Donc à mesure qu'on va progresser sur la vaccination, que nos efforts vont permettre de réduire la circulation du virus, on va progressivement ensuite rouvrir un certain nombre de lieux selon un calendrier qu'on est en train de travailler. On était hier en réunion autour du président de la République et du Premier ministre avec un certain nombre de collègues du gouvernement pour travailler à ce calendrier de réouverture, aux modalités de réouverture. Mais aujourd'hui, l'heure est évidemment à la mobilisation et à la prudence.
Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, ne nous emballons pas, restons calmes. Ce pourrait être la doctrine de l'exécutif, mais sa communication a peut-être fini par brouiller les pistes.
Oui, Emmanuel Macron a parlé d'objectifs de réouverture progressive autour de la mi-mai. Le problème, c'est que certains commerçants, restaurateurs en tête, mais aussi les acteurs du monde de la culture, du tourisme, ont compris le 15 mai. Sauf que Jean-Rémy Baudeau, l'Élysée refuse de donner en fait un calendrier plus précis.
Non Isabelle, pas de calendrier précis. Notez la petite nuance dans la bouche de Gabriel Attal. Le porte-parole du gouvernement ne parle plus du 15 mai, comme l'avait dit Emmanuel Macron. Il parle de la mi-mai. Mi-mai, ce sera donc le retour de début de quelque chose. Et ça commencera par certaines terrasses, certains lieux de culture. Là encore, je cite Gabriel Attal, on notera la prudence. La réalité, c'est que l'Élysée veut donner des perspectives, rassurer, montrer que l'exécutif est à la manœuvre pour permettre aux Français de reprendre le plus rapidement une vie normale. Mais comme me le confie un conseiller à l'Élysée cet après-midi, il y a toute une série de données à prendre en compte pour pouvoir décliner un calendrier précis. Comprendre des données sanitaires, techniques, mais surtout politiques. Si on rouvre, il faut que ce soit pour de bon, dit-on à Bercy. Voilà pourquoi il faudra attendre la prochaine allocution du président pour avoir des dates et un protocole précis, officiel. D'ici là, l'exécutif veut éviter de s'avancer. Souvenez-vous, Isabelle, la dernière fois que le président a demandé de tenir 4 à 6 semaines, là encore, je cite, c'était début mars, on est 6 semaines plus tard et rien n'est réglé.
Merci beaucoup Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1.
L'épidémie reste stabilisée à un niveau élevé. Plus de 5900 malades sont hospitalisés dans un service de réanimation. Côté vaccination, les chiffres sont en progression.
Oui, on dépasse désormais les 450 000 injections quotidiennes. Et pourtant la couverture vaccinale reste encore relativement faible. Près de 23% de la population majeure a reçu une première dose. Et le taux passe à 8% pour deux doses.
Et on rappelle qu'un peu plus de 2 millions de Français de plus de 75 ans n'ont toujours pas été vaccinés. L'assurance maladie appelle d'ailleurs chaque personne, une par une, pour leur proposer un rendez-vous.
Une campagne qui consacre la supériorité des vaccins Pfizer et Moderna. Le point commun entre les deux, eh bien, c'est que ce sont des vaccins à ARN messager.
Et à tel point que l'Europe pourrait d'ailleurs se passer de l'AstraZeneca. La ministre Agnès Pannier-Runacher l'a expliqué ce matin. Pas sûr que Bruxelles renouvelle les stocks. Désormais, il n'y en a que pour l'ARN, Victor Dolande.
Oui, les succès de Pfizer et Moderna ont donné des idées à leurs concurrents. Le prochain, ce sera le laboratoire allemand CureVac, avec un vaccin disponible dès le mois de mai. Et la liste est loin d'être terminée. Pas moins d'une douzaine d'autres labos sont dans les starting blocks. Le français Sanofi a lancé des essais cliniques de phase 1 et 2 avec une biotech américaine en mars dernier. Le vaccin pourrait être disponible courant 2022. Des essais également lancés par des labos chinois, japonais ou indiens. En fait, la réussite de Pfizer et Moderna a dopé la recherche sur les vaccins ARN messager, selon Bernard Verrier, directeur de recherche à l'Institut de biologie et de chimie des protéines.
Ça libère vraiment à la fois les innovations, les budgets, les finances. Et il y a un mouvement de fond qui se déclenche sur la vaccination ARN et ça va débloquer d'autres pathologies, les vaccins contre le sida, les vaccins contre le cancer. C'est clair que ça suscite énormément d'enthousiasme.
Et cette technologie n'en est qu'à ses débuts, selon les scientifiques. Rappelez-vous, en décembre dernier, il fallait stocker les vaccins Pfizer dans des supercongélateurs à moins 80 degrés. On sait maintenant les conserver à moins 20. Et dans quelques mois, on devrait pouvoir les garder à température ambiante. Et surtout, plus de labos pour développer des vaccins ARN messager. Ça veut dire aussi beaucoup plus de doses disponibles dans les années à venir.
Et puis Victor, on a aussi appris aujourd'hui de la bouche du PDG de Pfizer qu'il envisageait une troisième dose de son vaccin.
Oui, il confirme qu'il faudra sans doute une troisième dose entre 6 mois à 1 an après la première injection. Et à partir de là, il y aura une vaccination à nouveau chaque année. Mais tout cela doit être confirmé par des études sur la durée de l'immunité parce que pour le moment, on n'a tout simplement que 6 mois de recul avec les premières personnes vaccinées avec le sérum Pfizer.
Merci beaucoup Victor Dolande du service Société d'Europe 1. Quant à l'Agence européenne du médicament, elle rendra son avis mardi prochain sur le vaccin des laboratoires Johnson & Johnson.
Oui, on rappelle que son utilisation est suspendue aux États-Unis et ses livraisons sont retardées en Europe après l'apparition de 6 cas de caillots sanguins, dont un mortel.
La vaccination qui reste le seul moyen de retrouver le parfum d'une vie normale, c'est en tout cas le message que font passer les autorités. Israël, elle, franchit un pas de plus vers cette vie d'avant le Covid.
Les Israéliens pourront sortir sans leur masque à partir de dimanche. Le masque de protection ne sera plus obligatoire à l'extérieur. L'État hébreu fait un pas de plus dans la levée des restrictions. 53% de la population israélienne a reçu les deux doses de vaccins anti-Covid.
Et en Chine aussi, on tourne le dos à l'épidémie. L'économie repart de plus belle. 18% de croissance du PIB au premier trimestre. Ça repart également aux États-Unis. Et les entreprises françaises en profitent.
Oui, déjà dopée par la politique monétaire très accommodante de la Banque centrale américaine, la bourse de New York était toute proche de l'euphorie. Hier, plusieurs indicateurs comme les chiffres du chômage sont au vert ou pas loin. L'Amérique repart de l'avant et cette reprise très forte profite aux entreprises françaises à l'exportation. Louis de Rangère dirige une société qui fournit des machines de conditionnement à l'industrie américaine.
Depuis début janvier, on a énormément de demandes de la part des États-Unis. On le voit au travers des projets. Les projets sont beaucoup plus concrets et même nos interlocuteurs y sont très positifs. On voit qu'avec l'arrivée des vaccins et peut-être des plans de relance qui se profilent, ils veulent croire en la reprise de l'économie mondiale et donc ils veulent participer. Ils veulent que leur industrie soit prête à repartir pour pouvoir produire et livrer dans le monde entier. Ils ont besoin de s'équiper, surtout après une période où il y a eu peu d'investissements pendant l'année 2020 parce que la croissance était incertaine, la situation mondiale était incertaine. Donc ils investissent massivement et ils se tournent vers les entreprises américaines, bien sûr, mais aussi européennes pour avoir ces technologies performantes et de qualité.
Le directeur de Mom Packaging, Louis de Rangère, il répondait à Carole Ferry.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, la suite du journal de Christophe Lamarre sur Europe 1. La petite Mia toujours portée disparue. 4 hommes responsables présumés de son enlèvement sont en garde à vue.
Et puis le retour des romans policiers à l'ancienne.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
18h09, c'est la suite du journal de Christophe Lamarre et c'est toujours le mystère dans les Vosges autour de la disparition de Mia. Cette petite fille de 8 ans reste introuvable.
La justice craint qu'elle ne soit déjà à l'étranger avec sa mère. Cette dernière aurait contacté les 4 ravisseurs pour qu'ils enlèvent sa fille. Sur le profil d'ailleurs des kidnappeurs, on commence à en savoir un peu plus, Arthur Elmbaché.
Chez l'un d'entre eux, les enquêteurs ont retrouvé le script, le texte qu'il fallait dire à la grand-mère de Mia pour obtenir sa confiance et repartir avec l'enfant. À l'origine de ce scénario, qui a parfaitement fonctionné mardi, la mère de la fillette qui a trouvé et recruté ses hommes de main sur Internet, dit le procureur d'Épinal Nicolas Heitz, et qui a récupéré sa fille 20 minutes seulement après l'enlèvement.
Il n'est pas à exclure qu'elles aient pu quitter le territoire national. Notre département, les Vosges, n'étant pas très éloigné de plusieurs frontières. Des diffusions internationales ont bien entendu été réalisées pour faciliter leur localisation et leur appréhension. Mon parquet a également émis des demandes d'entraide pénale internationale en urgence absolue, dans le détail desquelles vous comprendrez naturellement qu'il m'est impossible de rentrer.
La plaque d'immatriculation d'une des voitures des kidnappeurs a été relevée par un témoin ici dans les Vosges mardi. Or, cette plaque est enregistrée dans les bases de données des services de renseignement. La DGSI, ces hommes proches de l'ultra-droite, faisaient même l'objet d'une enquête du parquet national antiterroriste. C'est grâce aux informations de ces services qu'ils ont été repérés et arrêtés. Épinal, Arthur Elbaché, Europe 1.
À Strasbourg, un rebondissement dans l'affaire du financement de la construction d'une mosquée. Elle ne sera finalement pas subventionnée par la ville. L'association d'origine turque qui réclamait ses fonds a renoncé d'elle-même à cette subvention.
La mort d'Éric Raoult, l'ancien ministre délégué à la ville de Jacques Chirac, est décédé ce soir à l'âge de 65 ans.
En ce moment, vous savez que c'est impossible d'aller au cinéma. Covid oblige. En revanche, rien ne vous empêche de vous plonger dans un bon polar.
Et que diriez-vous d'un bon roman policier sans hémoglobine? Le bruit feutré des pas du criminel sur la moquette le soir alors que tout le monde dort. Et bien voilà, c'est le retour des enquêtes façon Agatha Christie. On appelle ça le cozy crime. Le polar à l'ancienne revient en force et notamment en Grande-Bretagne.
Et par exemple, le Murder Club du jeudi, publié par l'éditeur d'Agatha Christie, qui signe la troisième meilleure vente de tous les temps. Plus d'un million d'exemplaires vendus, Nicolas Caro.
Le cozy crime, c'est le roman noir qui ne fait pas peur. Dans le Murder Club du jeudi, par exemple, un groupe de retraités se rassemble chaque semaine pour réfléchir à des affaires non résolues et essayer d'en percer l'énigme. Un jour, le directeur de leur village de retraite est retrouvé assassiné dans la cuisine. À eux de mener l'enquête. Un vrai cozy crime, Violaine Chivot est l'éditrice du livre aux éditions du Masque.
Déjà, c'est un roman d'enquête. Il y a peu de violence, il n'y a pas de détails glauques. Et dans le cozy crime, là où les personnes qui mènent l'enquête sont souvent des amateurs en fait qui se sont trouvés là un peu par hasard ou par chance. Et puis on est souvent dans un décor bucolique, on est à la campagne, dans un cadre un peu intimiste.
Tout ça saupoudré d'humour anglais, ces temps-ci, le cozy crime est plébiscité.
En ce moment, je pense que c'est particulièrement une littérature dont on a envie et besoin. Ça permet de s'évader en toute légèreté, de fuir la morosité et l'angoisse ambiante.
Les éditeurs se ruent sur le phénomène. La Martinière publiera en mai une nouvelle série, Les Dames de Marlowe enquête, une dame de 77 ans, amatrice de mots fléchés qui se transforme en détective. Succès annoncé.
Voilà le Cozy Crime, donc signé Nicolas Caro du service culture d'Europe 1, spécialiste littéraire, évidemment.
Allez, un mot de football. 33e journée de Ligue 1, le leader Lille reçoit Montpellier. Coup d'envoi à 21h et ce sera à suivre, bien sûr, en fil rouge sur Europe 1. Et puis le tennis, Stefanos Tsitsipas retrouvera Daniel Evans en demi-finale du Masters 1000 de Monte-Carlo.
C'était le journal de Christophe Lamarre. On vous retrouve à 18h30 pour le rappel des titres de l'info, Christophe.